Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série, qui sera une série très courte, maximum 3 CD. Le titre, c'est « À la recherche de ce qu'il y a de la valeur ». À la recherche de ce qu'il y a de la valeur pour tout un chacun d'entre nous. Rudolf Alexander Schröder, 1878 à 1962, qui a écrit de nombreux cantiques en allemand, a parlé dans l'un de ses poèmes de cet or qui se trouve en toute chose et que l'on décèle dès lors qu'on les regarde attentivement avec des yeux capables encore de pouvoir s'étonner. Pour ce poète, deux conditions sont indispensables si nous voulons mettre de l'or dans notre vie quotidienne. La première est la juste compréhension des choses qui consiste à pouvoir jouir de tout ce qui s'offre à nous, tel que le soleil, bien sûr, mais aussi des jours sombres et même des choses que nous avons possédées un jour, mais qui nous ont été soustraites ou que nous avons dû parfois abandonner en cours de route de notre vie. Il faut de la sagesse pour bien comprendre toutes ces choses. Et nous ne pouvons en profiter que si nous les regardons avec les yeux de la sagesse, si nous les laissons telles quelles sans vouloir les posséder. Voyez-vous, l'amour est notre seconde condition. Tout ce sur quoi se penche l'amour divin royal et précieux se couvre d'or, comme la feuille sèche que l'on regarde avec amour. Une simple lettre prend toute sa valeur si elle est écrite avec beaucoup d'amour. C'est impossible de penser que sans amour, nous pouvons y arriver. Il faut être sincère et avoir de l'amour en nous. Chers amis, le calme précède le silence. Le calme est un espace dans lequel nous nous plongeons. Nous connaissons ce genre d'espace qui nous font du bien, qui agissent comme un baume sur notre âme. Entrons dans une église et asseyons-nous. Là, tout est calme. Nous sentons cette paix nous envelopper. Et là, nous avons le sentiment d'être en sécurité. Également, si nous nous promenons dans une forêt, nous n'entendons plus le bruit des voitures ni celui des avions. Tout est calme, nous sommes bien. Ce calme nous apaise et nous sentons son bienfait. Les mots, eux aussi, peuvent apporter le calme. Je voudrais simplement vous lire un poème de Johann Wolfgang von Goethe. Voici son poème. Sur toutes les cimes, plus rien ne bouge. Au sommet des arbres, tu perçois à peine un souffle d'air. Dans la forêt, les oiseaux se sont tus. Attends, attends, car bientôt, tu reposeras à ton tour. Johann Wolfgang von Goethe. Dans son roman le pavillon des cancéreux. L'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn parle d'un médecin qui se retire dans son espace de silence chaque fois qu'il le peut. Et pourquoi ? Pour se purifier, pour purifier son âme, c'est ce qu'il dit. Cet espace de calme où nous pouvons faire retraite nous est nécessaire pour nous purifier des pensées et des émotions qui tous les jours nous assaillent. Tout comme le vin doit reposer pour que la lie se dépose, nous devons aussi faire halte dans le calme afin que tous les troubles qui se glissent en notre cœur puissent se clarifier et que nous percevions un soupçon de ce que les anciens appelaient la pureté du cœur. Chers amis, en allemand, le mot apaiser et allaiter. Ces deux mots sont un seul et même mot en allemand, apaiser et allaiter. En nourrissant son enfant, la mère l'apaise. Notre esprit n'est pas de lui-même apaisé dans le calme, mais c'est dans le calme que la faim de notre âme, nos désirs les plus profonds, vont se manifester. Et dans ces moments, il faut faire l'expérience du Dieu maternel pour assouvir cette faim. Le psalmiste ne dit-il pas « Non, je tiens mon âme égale et en silence, comme un enfant sevré sur sa mère, comme un enfant sevré, eh bien mon âme est en moi. » Psaume 131, verset 2. La proximité aimante de Dieu, elle apaise notre âme. Chers amis, pour le poète, c'est Dieu lui-même qui vient en nous par l'Esprit Saint dans le calme et dans le silence. Dans le silence, nous pouvons penser Dieu. Il nous est si étranger dans le vacarme du quotidien qu'il nous est impossible de le penser. Mais dans le silence, affleurent en nous des pensées qui viennent de Dieu lui-même. Nous recevons en cadeau une image de Dieu. Pour un bref instant, nous le reconnaissons, mais ne pouvons le retenir. C'est un peu comme un sourire que Dieu fait éclore en nous. Nous apportons ainsi la certitude qu'il est toujours présent. En faisant cette expérience du silence, nous faisons pas que penser Dieu ou de penser à Dieu, mais nous sommes aussi en mesure d'en faire don à toute vie, oui, à tout ce qui est vivant, c'est-à-dire à tous les hommes et à nos sœurs qui sont des femmes saintes. Dieu apparaît alors comme un remerciement, comme une action de grâce qui se répand sur nous tous. Nous portons soudain sur le monde un regard de gratitude. Offrir ainsi Dieu que nous présentons dans le silence est comme une action de grâce qui emplit non seulement notre cœur, mais aussi toute existence qui nous entoure. Il est un espace où le silence est déjà présent, où Dieu habite vraiment, ou comme le dit Jésus, le royaume de Dieu est déjà en nous. Saint Luc chapitre 17, verset 21. Là où le royaume de Dieu est en nous, où Dieu règne en notre cœur, alors les hommes n'ont aucun pouvoir sur nous, ils n'ont aucun droit, aucune attente, ils ne peuvent nous jauger ni nous juger, car nous sommes intacts et entiers. Nul ne peut donc nous blesser. L'espace intérieur du silence est déjà présent en nous, quelles que soient les pensées qui se bousculent souvent dans notre tête. Mais nous en sommes souvent empêchés, nous en sommes parfois coupés, empêchés par les soucis, les ruminations, et on peut dire aussi, tout cela peut parfois nous envahir malgré nous. Et là, nous avons besoin de l'aide de notre Père Céleste. Donc, faire silence parfois, méditer, s'asseoir tout gentiment, tout tranquillement, en silence devant Dieu, sont autant de moyens pouvant nous aider à retrouver en nous cet espace intérieur. Les églises sont souvent des bâtiments empreints de calme et on y respire le silence. Arrêtons-nous quand nous le pouvons dans une chapelle déserte. En découvrant notre espace intérieur de silence, nous entrevoyons que nous sommes nous-mêmes un temple où Dieu habite dans toute sa gloire. Alors, toutes nos pensées se taisent et nous pouvons jouir de l'instant et le silence nous semble mettre de l'or dans notre vie. Tout simplement. Chers amis, qu'on le veuille ou non, il nous arrive bien souvent d'échouer, de ne pas faire ce que nous voulons vraiment. Nous nous faisons alors des reproches. Nous avons du mal à nous pardonner de n'avoir pas agi comme nous le voulions, de ne pas avoir tenu nos promesses. Pourtant, le pardon met de l'or dans notre vie, car en pardonnant, nous renonçons à juger la manière dont nous nous sommes comportés. Le pardon transforme notre échec en un bien précieux qui nous libère, oui, qui nous libère de l'illusion de toujours parvenir à faire ce que nous voulons. En nous pardonnant à nous-mêmes, eh bien, nous apprenons à mieux nous connaître et nous devenons ainsi plus sereins et en même temps plus libres. Nous cessons donc de nous mettre constamment sous la pression de devoir être parfait. La joyeuse sérénité qu'engendre le pardon, cela dore notre vie. En effet, le pardon ne s'adresse pas seulement à nous-mêmes, il vise aussi les autres. Dans notre vivre ensemble quotidien, nous avons beau nous efforcer au respect d'autrui, nous nous blessons les uns les autres. Le pardon ne souffre aucune comptabilité mesquine, car il est la source de réconciliation et il rompt l'envoûtement de la vengeance. Joachim Ringelnatz, de 1883 à 1934, l'a joliment exprimé dans un poème intitulé « Réconciliation ». Voici ce qu'il dit. « Tout peut se réconcilier qui ne tient pas de compte. Le regret s'exprime courageusement, paisiblement, en une belle heure nouvelle et humble. Ce peut être un poème émouvant. La vie, elle est brève. Quand un pardon exprime par pitié ce qu'il y a de plus intime, alors deux époux séparés veulent être bons et simples. Si tous les deux le savent, ils peuvent de nouveau partager tout leur toit, leur bien et leur vie et leur chevet. » Écrit par Joachim Ringelnatz. Chers amis, l'abandon de toute comptabilité première, c'est la première condition nécessaire au pardon. Je répète, si nous pouvons abandonner toute comptabilité, c'est la première condition nécessaire au pardon. Et là s'ajoute le repentir. Gloire à Dieu. Ringelnatz parle d'une heure humblement discrète, ce moment où le regret émeut soudain l'âme. Le regret ne mène pas à la douloureuse contrition, mais nous mène à la paix et requiert du courage. Le repentir transforme, pour ainsi dire, la vie. Elle la transforme en quelque chose qui accorde et qui réunit ce qui est séparé en nous, qui donne la parole à ce que nous avons de plus intime en nous. Dans la troisième strophe, le poète illustre très concrètement la manière dont la réconciliation conduit à ce que la maison de la femme devienne aussi celle de l'homme et le chevet de l'homme puisse devenir aussi celui de la femme. Tous les deux font demeure et ils font lit commun. Or, des êtres non réconciliés sont séparés l'un de l'autre et ne sont pas disposés à partager leur vie. Chacun revendique son droit, sa maison, même son lit. Chacun veut avoir raison et de ce fait, il ou elle s'isole. Mais la réconciliation, elle renoue les liens et fait de chaque maison froide et pâle une demeure unique, oui, une demeure chaleureuse et redorée. Chers amis, l'expérience que nous faisons de la vie est aussi pour nous une véritable richesse. En feuilletant le livre de notre vie, nous pouvons y découvrir des mines d'or. Notre histoire est faite de trésors qui s'accumulent année après année, mais que nous ne percevons pas tant nous sommes fixés sur les problèmes de notre vie. cette galerie de trésors ne renferme pas seulement les souvenirs des bons moments, mais aussi ceux des heures sombres de notre vie. En les considérant tous, nous nous rendons compte que même ces moments difficiles sont remplis d'or. Nous avons broyé du noir, nous avons souffert, éprouvé des blessures, mais toutes ces épreuves, nous les avons surmontées. Elles nous ont rendus plus sages, plus mûrs et, de ce fait, plus sereins. Nous avons vu quelque chose qui n'a été vu que par nous seuls, qui n'a été vécu par personne d'autre. Et notre souffrance s'est donc transformée en véritable trésor. Les leçons que la vie nous a enseignées sont pour ainsi dire conservées dans le dictionnaire de notre histoire personnelle que nous pouvons à tout moment consulter. Car ce dictionnaire ne nous quitte pas. Il apporte des réponses aux questions les plus importantes que nous lui posons. Chers amis, moi, je t'invite maintenant, je t'invite à feuilleter le lexique de ta vie personnelle. Remonte un peu à ton enfance. Quels bons souvenirs en as-tu gardé? Peux-tu te rappeler le sentiment de sécurité que ta mère t'apportait? L'assurance et la confiance que tu ressentais auprès de ton père? Peut-être vas-tu te souvenir que vous assistiez ensemble au culte le dimanche matin à l'église et que tu y éprouvais quelque chose de mystérieux qui te fascinait et te procurait une sensation de sécurité encore plus grande. Mais peut-être as-tu aussi gardé de ton enfance tes souvenirs douloureux où tu t'es senti injustement châtié, c'était mon cas, où tu as été ignoré, abandonné, humilié et même battu. Et maintenant que tu es adulte, tu te remémores, tu te rappelles ces expériences et tu constates que ce sont justement ces blessures qui t'ont formé, qui t'ont même rendu beaucoup plus mature et, de ce fait, plus fort. En portant un regard rétrospectif sur notre vie, nous enveloppons d'or également les souffrances que nous avons endurées, car elles nous ont forcé à prendre nous-mêmes notre essor, à prendre notre vie en main et à la modeler. Les blessures que nous avons éprouvées ont souvent été le déclencheur qui a fait de nous ce que nous sommes. Et il n'est pas rare que certains, justement, parce qu'ils ont souffert dans leur enfance, se promettent d'essayer de faire mieux que leurs parents, et décident de s'occuper des blessés de la vie. Chers amis, pour terminer cette courte étude, Sachez que toutes les expériences accumulées au long de notre vie nous ont dotés de sagesse. Celle-ci peut apporter des réponses aux questions que nous ne cessons de nous poser. Notre âme sait ce qui est bien et bon pour nous. Les anciens parlaient du maître intérieur qui l'habite. Pour eux, le Christ, c'est lui. Et c'est lui qui est le chemin qui nous conduit vers Dieu le Père. Et il nous conduit au salut de notre âme. Nous entrons donc en contact avec lui en regardant à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelques enseignements et encouragements sur votre route. Voici ce que j'ai reçu pour vous. Ne doutez jamais. N'ayez aucune crainte. Au moindre mouvement de peur, cessez toute activité, arrêtez tout et retrouvez en Jésus, dans le calme, votre joie et votre force. Agissez ainsi chaque fois que la lassitude vous gagne. Le Seigneur aussi a connu la fatigue sur la terre. Il a su, pour un moment, se séparer de ses disciples et se reposer au bord du puits. Saint Jean chapitre 4, verset 6. Et c'est parce que Jésus s'est reposé que la femme samaritaine a pu être aidée. Les temps de retraite paisibles préparent toujours les nouveaux miracles. Mettez-vous à son école. Lorsque l'on accepte de tenir compte des faiblesses de la chair, sauf en ce qui concerne le péché, on accepte avec Jésus-Christ son humaine condition. Il a fallu au Seigneur apprendre à ses disciples à se renouveler spirituellement et à se reposer physiquement. Songez à l'exemple qu'il vous a donné en dormant à la poupe de la barque, la tête sur le coussin, selon saint Marc, chapitre 4, verset 38. Ses disciples se sont crus abandonnés et ils se sont écriés, « Mais maître, cela ne te fait-il rien que nous allons nous périr, que nous périssions ?» Le Seigneur fallut leur faire comprendre que dans le plan du Père, il y a autre chose qu'une activité de tous les instants. Quand l'apôtre Paul déclarait « Je puis tout par celui que me fortifie » Philippiens 4, verset 13. L'apôtre Paul ne voulait pas dire qu'il pouvait tout entreprendre à son gré en comptant sur Jésus pour recevoir les forces nécessaires. Il voulait donc dire qu'il s'en remettait vraiment à Jésus-Christ pour être rendu capable de faire tout ce que Jésus lui demandait. L'œuvre divine ici-bas elle a été entravée par l'activisme de l'homme. Le corps qui s'est voulu infatigable, le corps rendu nerveux, a chassé l'esprit. Or l'Esprit Saint doit toujours être là et agir en maître, en sorte que le corps soit très simplement et comme tout naturellement utilisé par Jésus-Christ selon les besoins du moment. Nous pouvons dire Jésus-Dieu, car il est la deuxième personne de la divinité. Vivez donc avec lui et pour lui. C'est l'Esprit Saint qui agit en vous et pour vous. Et c'est Dieu le Père qui fait surgir les occasions. Nous allons maintenant prier ensemble et je vous mettrai un ou deux chants d'un lointain passé. En ce temps-là, les CD n'existaient pas, évidemment. Prions. Ô Dieu, qui est le Dieu fort et miséricordieux, qui te souviens de tes enfants pour leur faire du bien, combien nous avons besoin que tu nous dises, comme autrefois aux Israélites, n'oubliez pas, et que tu nous rappelles les grâces que nous sommes si prompts à oublier, que nous n'oublions pas, Seigneur, les ténèbres du péché d'où tu nous as tirés pour nous amener à la merveilleuse lumière, cette lumière de ta grâce et de ton évangile. Que nous n'oublions point les choses que nos yeux ont vues et que nos oreilles ont entendues de ton amour et de ta miséricorde envers nous tout au long de notre vie. Oh, si nous savions compter tes bienfaits, comme nous savons nous plaindre de chaque difficulté, de chaque épreuve, de chaque épine qui vient à la traverse de notre volonté. Que la pensée de toutes ces misères puisse être absorbée pour nous dans celle de la délivrance et de ton amour infini. Pardonne au notre Père notre ingratitude, notre incrédulité, nos murmures si fréquents. Apprends-nous à conserver le souvenir de ta miséricorde qui demeura toujours et à n'oublier que les choses qui sont derrière nous et qui peuvent nous entraver dans notre carrière chrétienne. Exauce-nous dans ta bonté pour l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais donc essayer de vous mettre quelques chants de ce lointain passé, 1965. Et évidemment, la qualité n'est peut-être plus aussi parfaite, vous le comprendrez.
I promise I'd never let it happen. Oh, encore.